À la fin du mois de janvier, de nombreuses structures de création et de diffusion artistique ont été informées de la probable réduction des crédits alloués par le ministère de la Culture via les DRAC dans deux secteurs. Le secteur de la création, qui, selon la nomenclature charmante du ministère, s'appelle Programme 131 et concerne les arts plastiques, musique, danse, théâtre, art de la rue, cirque, cinéma, audiovisuel, multimédia et livres. Et puis, dans le secteur de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture, c'est le programme 224, et c'est le plus affecté par ces mesures qui concernent les actions artistiques en milieu hospitalier, en direction des handicapés, de la population carcérale, concernant aussi l'éducation culturelle et artistique et les actions menées dans le cadre de la politique de la ville. Ces réductions budgétaires ont pour conséquence directe la mort programmée de nombreuses équipes qui développaient leurs actions et leurs projets de création sur les territoires et dans les secteurs qui dépendaient de ces crédits. Ces coupes sombres correspondent à la réorientation de la politique culturelle mise en œuvre par la ministre Christine Albanel et semblent signifier un désengagement total ou partiel de l'État dans les secteurs concernés. Pour faire le point sur les conséquences de cette réorganisation, non seulement pour les structures affectées, mais surtout pour les publics, les spectateurs, auditeurs, pour vous qui nous écoutez en ce moment, j'accueille sur ce plateau quelques représentants des secteurs particulièrement concernés, afin de vous informer sur l'état des choses et leur possible évolution. Présent autour de cette table, Sébastien Cornu, dans le domaine des musiques actuelles. Sébastien est programmateur pour la gare du Coustelet et représentant du syndicat UFISC. Michel Philibert, pour le festival Reflet, festival du cinéma gay et lesbien à Marseille. Édouard Monet, pour Vidéochronique, structure de promotion de la création vidéo à Marseille. Vincent Bonnet, c'est David Bouvard qui devait représenter la compagnie, mais c'est Vincent Bonnet qui la représente, la compagnie, collectif d'artistes pluridisciplinaires situé dans le quartier de Belzunce. Emmanuel Vergès, directeur de l'espace culture multimédia à la Friche Label de Mai. Et puis Serge Pizot, vice-président de Léo Lagrange PACA. Bonjour à tous. Bonjour. Émission s'inscrit dans le cadre d'une journée nationale d'action dont nous détaillerons le programme et les rendez-vous tout à l'heure, en fin d'émission. Journée qui concerne particulièrement le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et qui devrait être suivie d'une autre journée d'action le 29 février, elle plus ciblée autour du spectacle vivant. Mais tout de suite, je vous propose qu'on fasse le point sur ces réductions budgétaires. Est-ce qu'on a aujourd'hui un chiffrage approximatif de ces restrictions? Peut-être pour commencer, Sébastien Cornu.
Oui, bonjour. Toute la difficulté de l'exercice et de la relation avec l'État en ce moment, c'est qu'en fait, on n'a pas d'informations, à part sur un programme spécifique qui est les ECM, les espaces culture multimédia, dont Emmanuel pourra nous parler tout à l'heure. On sait qu'il y a des réductions de budget, on sait qu'il y a 6 à 8% de gel budgétaire sur l'ensemble des lignes du gouvernement, donc la culture aussi. Mais par contre, pour tout ce qui est programme 131 et 224, comme vous l'expliquiez au début, ça va de 5 à 100%. Donc 5% pour qui, 100% pour qui on n'a aucune information et c'est ce qui a fait l'objet de nos rassemblements et délégations à la DRAC au début du mois de février.
Et pourtant, malgré ces réunions, ces occupations de la DRAC, les chiffres précis n'ont pas été donnés. On a l'impression qu'on doit attendre le mois de juin pour avoir des chiffres un peu plus précis.
Oui, c'est ce qui nous a été dit, entre autres, par Marc Secaldi, qui représentait la DRAC lors de nos rendez-vous communs à deux reprises. C'est que tant que les arbitrages de l'État n'ont pas été effectués sur des lignes budgétaires, il était impossible, en tout cas à la DRAC, de donner des informations précises sur les budgets et sur les attributions ou les baisses totales et définitives d'attribution de subventions pour certaines structures.
Je précise à cette occasion que Marc Secaldi, représentant l'ADRAC, était bien entendu invité sur ce plateau, mais qu'en raison des élections municipales, il nous a fait savoir que son devoir de réserve l'empêchait de participer à cette discussion. Dont acte. Peut-être on pourrait faire un tour de table pour essayer de savoir comment les différents secteurs qui sont concernés par ces mesures sont affectés. Il semble que le cinéma, l'audiovisuel et le multimédia soit particulièrement visé. Peut-être Emmanuel Vergès à propos du multimédia.
Sébastien, on a dit deux mots. Sur le multimédia, on est aussi sans aucune information officielle du devenir du financement, en particulier des espaces culture multimédia, programme qui avait été initié par le ministère de la Culture dès 1998, dont la gestion et le financement avaient été déconcentrés dans les DRAC, et donc dans un double pilotage à la fois ministériel et à la fois par les DRAC, qui créait quelque chose d'assez intéressant à la fois autour de problématiques de création, de diffusion artistique et d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, oui, on a des informations officieuses. On sait qu'a priori, et je dirais toujours a priori au conditionnel, parce que, voilà, Sébastien le disait, les informations officielles n'existent pas. Le programme Espace Culture Multimédia s'arrêterait d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'on le dit comme ça, est-ce qu'il faut le dire autrement, mais le financement dans l'ensemble des régions et par l'ensemble des DRAC des Espaces Culture Multimédia est largement remis en question. Ce qui n'est pas sans poser de problèmes et de paradoxes assez énormes, entre autres par rapport à un discours de Fillon, François Fillon, hier, à l'inauguration d'un pôle de compétitivité, qui disait que si la France veut continuer et veut avoir une belle croissance, il faut qu'elle investisse dans les technologies de l'information et de la communication.
Édouard Monet, peut-être les secteurs de l'audiovisuel, du multimédia, du cinéma sont effectivement particulièrement visés, on pourrait dire, par ces mesures ?
Pour les informations qu'on a récupérées depuis la mi-janvier, en tout cas de structures qui développent une activité proche de la nôtre, effectivement, toutes les structures qu'on connaît et qui font partie de ce réseau-là sont directement affectées, et avec des baisses effectivement qui peuvent aller jusqu'à 100%, y compris d'ailleurs localement. Donc effectivement, les informations sont officieuses, mais les chargés de mission ne se gênent pas à l'heure actuelle pour fournir des informations officieuses et nous dire à quelle hauteur les coupes budgétaires vont être produites.
Manu Vergès.
Oui, je rebondis sur ce que dit Edouard. C'est effectivement assez étonnant que on soit supporté, ou que les chargés de mission accompagnent. Enfin, on a l'impression que les chargés de mission sont complètement pris entre le marteau et l'enclume et font eux-mêmes un travail de recherche d'informations et cherchent à nous informer, alors que dans des autres logiques, oui, mais a priori contre aussi, non pas leur hiérarchie, enfin contre des soit peut-être directives, ou contre leur hiérarchie, contre des directives de l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression que face à nous, à la fois on n'a pas d'informations et à la fois on pense on en a quand même, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe face à nous. Et je trouve que c'est très compliqué.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment autour de cette table que c'est un peu une stratégie, cette manière de diffuser une information partielle mais pas complète, d'attendre ou de devoir attendre, peut-être Vincent ?
Oui, nous on a eu des retours obscurs, quoi. On a eu des informations, on nous a dit que c'était officieux. En même temps, ce qui a l'air clairement posé, c'est à chaque fois au niveau d'une stratégie médiatique de toujours annoncer le pire. Qui provoque aussi un chaos psychologique, relationnel, des conditions de travail difficiles. Bon, ce qui s'annonce quand même de manière claire, mais qui n'est pas annoncé, qui n'est pas assumé, c'est des transferts de compétences, en tout cas au niveau de la politique de la ville et de l'action culturelle. Ça va passer des DRAC aux compétences de la préfecture, quoi. Donc ça pose des questions sur ce transfert de compétences, jusqu'où il va aller ? Est-ce qu'il va remonter aussi de la préfecture au ministère de l'Intérieur, par exemple, sur toutes ces questions qu'on se pose, quoi.
Vincent Bonnet parle de choc psychologique provoqué. Michel Philibert, est-ce que vous avez l'impression que c'est une volonté de déstabilisation du secteur ?
En tout cas, le risque de démantèlement par la révision générale des politiques culturelles, qui atteint donc le réseau des DRAC, c'est évidemment pour la plupart d'entre nous, petites et moyennes structures, un coup porté sur nos activités dans l'immédiat, sur nos trésoreries, sur les difficultés que nous avons au quotidien à mettre en place nos projets qui sont déjà clairement établis. C'est difficile pour les festivals, pour les structures, d'engager des partenariats ou de poursuivre des partenariats déjà accomplis, parce que, évidemment, les gens qui sont à nos côtés pour nos manifestations et les actions que nous portons ont aussi une inquiétude par rapport à ce qui pourrait se passer sur le plan financier, sur le plan des actions. Donc c'est un frein déjà, en tout cas, donné de façon évidente à nos activités. Et peut-être au-delà de ça, si pour certaines structures qui sont appelées peut-être à voir leur totalité de subvention disparaître, c'est aussi, en termes d'emploi, une très très grave inquiétude. Il y a des structures qui ont un salarié, voire un demi-salarié. C'est le cas du Festival Reflet, par exemple. Qu'en sera-t-il demain si les subventions qui sont versées par l'État disparaissent totalement? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir nos emplois, nos activités? C'est tout cela qui est posé. C'est c'est le maillage de nos activités qui est posé de façon effectivement très très dramatique là.
Pour terminer ce premier tour de table, Serge Pizot, je rappelle que vous êtes vice-président de Léo Lagrange PACA. Peut-être on pourrait avoir l'impression que c'est le secteur de la culture qui est concerné par ces mesures, mais bien au-delà, c'est tout le lien entre la culture et l'action sociale.
Oui, effectivement, notre projet est plus ancré dans le mouvement d'éducation populaire. Notre projet, il est plus dans l'accompagnement des individus vers le statut de citoyen, au sens large du terme, on pourrait débattre là-dessus. Mais si ce qui se passe actuellement avec tout ce qu'on entend, effectivement, on est dans le flou. Hein, quand je vous entendais parler autour de cette table, je pensais à Coluche qui disait « Expliquez-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez ». C'est un peu ce qui se passe actuellement, quoi. Et si aujourd'hui tout ce qui est annoncé, tout ce qu'on peut pressentir se mettait en place, ça serait un coup dur pour les actions que mènent les associations du mouvement d'éducation populaire, parce que tous ces partenariats que nous avons avec le MUCEM, avec les différents musées nationaux, à Marseille, on a des partenariats qui nous permettent d'avoir des actions envers la culture. Toutes ces actions-là tomberaient de fait à l'eau. Et puis alors plus grave que ça. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'impact économique. Ça voudrait dire que derrière tout ça, les chargés de mission qui ont pour mission de coordonner toutes ces actions disparaîtraient. Donc ça veut dire des plans sociaux. Donc c'est grave. Je ne comprends pas que cette question ne soit pas posée en ces termes aussi.
Ces mesures ne semblent pas être conjoncturelles, mais s'inscrire dans une volonté délibérée, presque dans une stratégie de redéfinition du rôle de l'État comme moteur des activités culturelles, de l'aide à la création. Alors, qu'y a-t-il derrière? Est-ce que ça veut dire se désengager, enfin pour l'État, se désengager au profit, si j'ose dire, des collectivités territoriales, des régions, des départements et des villes? Sébastien Cornu?
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur de différents éléments. Est-ce que il y a le contexte, la fonction de l'État, son rôle par rapport aux collectivités, la décentralisation, etc. Bon, ça c'est en marche depuis très longtemps et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense, et c'est légitime. On se posait la question de ce qui était visé. Moi, je crois que ce qui est visé, c'est la diversité et la proximité. La diversité, parce que tout ce qui compose notre paysage artistique et culturel, c'est majoritairement fait, constitué de petites compagnies, de petits... alors je dis petits, ça peut paraître péjoratif, mais dans des tailles d'équipement, de structures, de groupes de personnes qui sont réduits. On n'est pas sur des grosses infrastructures. Donc petits, donc fragiles quand même, sur des économies très précaires. Et il suffit sur ces petites économies de retirer 10% et on déstabilise l'ensemble de ces petits réseaux. Et donc la proximité, parce que c'est la composition de toutes ces équipes sur les territoires qui font que au quotidien on peut avoir une intervention dans une école, qu'on peut avoir un concert, un spectacle de théâtre, un spectacle de rue, etc. À moins de 150 km de son domicile. Donc moi je crois foncièrement que c'est la diversité et la proximité qui sont visées, et que au niveau stratégique de l'État, on est sur, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, sur des économies. Et comme il faut faire des économies, il faut tailler quelque part, et on ne sait pas trop où tailler. Enfin, on sait où il ne faut pas tailler, par contre. Du coup, c'est un peu fait de façon arbitraire. Hein. Puis avec un rapport Attali complètement discutable, où on remet en cause des choses importante. Et le problème, je pense, sur notre sur ce qui nous concerne là, au niveau artistique et culturel, c'est que on va faire des petites économies pour de grands dégâts. Dont je pense que l'État ne se rend même pas compte, quoi, en fait. Donc il coupe là-dessus quelques pourcents, et puis c'est tout un secteur qu'on appelle tiers secteur, c'est-à-dire des petites entreprises, hein, qui sont ni du secteur marchand ni du secteur privé, c'est-à-dire complètement subventionnées, mais qui mixent tous les types d'économies, qui va se retrouver complètement à la rue.
Emmanuel Vergès, une réaction ?
Je suis pas sûr que la stratégie ne soit que de faire des économies. Je crois que derrière, quand tu évoquais la question stratégique, je crois qu'on a face à nous des gens qui ont une véritable stratégie, une véritable pensée sur l'économie, qui est une économie purement libérale, c'est-à-dire une économie du service. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que oui, dans les faits, il y a un désengagement de l'État sur la question culturelle. Au début de l'année, on a eu un désengagement de l'État sur la question de la justice avec la méthode Dati. Et alors que on a les mêmes processus, c'est-à-dire qu'on a eu ni concertation sur la méthode Dati, ni concertation là aujourd'hui sur l'évolution et les réformes. Tout à l'heure, Michel évoquait une refondation des politiques culturelles. Je crois que foncièrement, que ce qui s'est passé pour les tribunaux avait une véritable la stratégie pensée depuis le ministère de la Culture là pour faire des économies, parce que c'est de leur mission régalienne, de leur compétence sur la culture. On a une stratégie qui est beaucoup plus insidieuse, qui est cette stratégie économique libérale, et que pour moi la non concertation qui se passe aujourd'hui est véritablement un fait d'incompétence, parce que on est en train d'être face, quand on évoquait toutes les problématiques d'information, vers un processus où il n'y a pas de pensée. C'est-à-dire que la seule pensée est la pensée libérale, une pensée de marché, qui est du ressort, d'une certaine manière, de l'État, mais s'il y a des engagements de l'État sans accompagnement par une pensée claire et affichée, donc une stratégie de développement de services culturels, on pourrait les imaginer pour la diversité, pour la proximité, etc., etc. Le problème très grave, moi je crois, auquel on va se avoir face, hormis toutes les problématiques d'arrêt d'un certain nombre d'activités, d'associations, de perte d'emploi, etc., etc., c'est plus globalement le fait qu'il n'y a pas transfert de compétences et de réflexion sur les compétences de qui va s'occuper aujourd'hui des politiques culturelles. Et là, moi je pense qu'à terme, on va avoir une véritable impensée des politiques culturelles. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que on va se retrouver avec la mise en place, d'entreprises culturelles. Et comment ça va se gérer? Comment on va appréhender la question du territoire et la question de l'artiste? Comment on va appréhender des questions d'aménagement, de proximité et des questions de diversité de forme quand on n'aura plus de pensée culturelle et que la seule pensée culturelle sera celle des industries culturelles? Je pense que c'est grave en ce sens, dans un sens symbolique, et par rapport à ce qu'évoquait Sébastien tout à l'heure, je pense qu'on a moi personnellement j'ai une véritable difficulté de placer un temps aujourd'hui et de se dire dans quel temps il va falloir travailler ces questions-là, parce qu'on est dans une question de fond de société.
On a vu effectivement à l'occasion de récentes élections présidentielles ce sentiment que la culture n'était plus du tout au cœur des débats. Pour rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Emmanuel Vergès, une impensée, une absence de politique culturelle délibérée, volontaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Édouard Monet ?
Mais je voudrais juste revenir. Je pense que dans les visées, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment et mon intuition, donc j'aurais bien du mal à le développer et l'articuler. Mais je pense que dans les visées et dans cette pseudo-stratégie, il y a quelque chose pour moi qui touche à la question de l'indépendance en dehors de la question de la diversité et de la proximité. C'est-à-dire que je pense que on est passé, ça demanderait à être développé, hein, mais on est passé d'un système qui était plutôt bienveillant à l'égard de cette notion d'indépendance à un système qui est plutôt malveillant à l'égard de cette notion d'indépendance. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas moi, qui me paraît extrêmement dangereux et qui est à réfléchir et à fouiller sérieusement.
Michel Philibert, cette politique, elle est contre la diversité. Vous, la diversité, chaque jour et tout au long de l'année, vous essayez de vous battre pour la, au contraire,
l'écouter. Oui, enfin, et pas que moi, en tout cas dans le secteur du cinéma, je ne parle pas ici que des festivals, mais de toutes les structures qui, au quotidien, œuvrent en la matière avec l'outil qui est le cinéma, quel qu'il soit, sous toutes ses formes, sous tous ses genres et sa grande diversité, pour que effectivement chacun dans cette société ait un accès à la réflexion sur l'autre, sur une société, sur ses changements, ses motivations. Et c'est en tout cas le rôle de nombre de petites et moyennes structures qui œuvrent en la matière avec compétence, énergie, savoir-faire, savoir montrer, savoir partager. Il y a des structures qui œuvrent toute l'année, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'éducation populaire, ce qui est très important, fondamental bien sûr, en termes d'éducation, c'est qu'on ne peut pas construire un pays s'il n'y a pas d'éducation et si personne ne partage une connaissance commune de l'autre. Donc toutes ces structures auxquelles là, je rends hommage dans le travail qu'elles font et que nous faisons tous, c'est d'amener effectivement une société future avec les jeunes que nous côtoyons dans nos actions, dans nos ateliers, dans les démonstrations que nous faisons, dans les rencontres avec un film, une école, un collège, un lycée sur une thématique donnée. C'est effectivement cette diversité-là et ce travail-là qui est mis en cause. Et on veut peut-être aujourd'hui amener, en tout cas, là je parlerai du cinéma et mes collègues ici présents m'en excuseront, je crois qu'on essaye aujourd'hui d'amener une politique du cinéma vers effectivement une activité purement marchande, alors que certes le cinéma c'est une économie, Agnès Varda était la première à le dire, mais c'est aussi tout un contenu.
Serge Pizot, sur cette question de la diversité.
Oui, effectivement, tous autour de la table, on travaille chacun dans son domaine à donner aux gens à penser, à donner aux gens outils, matières à penser, à construire leur opinion. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est dans une espèce de dictature. Alors certes, on n'est pas dans une dictature militaire, comme l'histoire a pu nous en montrer, ou comme aujourd'hui on en trouve partout. Mais aujourd'hui, au prétexte du marché, on formate des individus pour un produit de consommation uniforme, rémunérateur pour celui qui le diffuse. Et puis après, ben, tant pis pour ceux qui ne prennent pas ce train-là. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Moi, j'ai le sentiment qu'on vit une dictature culturelle aujourd'hui, à savoir que où ça rentre dans le format Euro Disney, et puis c'est certainement très bien pour certains, mais il faut aussi laisser la place à un mode de pensée qui laisse, qui donne à l'individu le sens critique.
Vincent Bonnet, la compagnie est un petit lieu précisément. Tout à l'heure, Michel Philibert évoquait que ces petites structures étaient particulièrement exposées. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train en ce moment d'aborder un phénomène de concentration et que les politiques culturelles veulent favoriser les gros lieux, les lieux centraux, et qu'au contraire, les petits lieux tels que le vôtre sont particulièrement exposés ?
Bah, disons que nous, ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, mais c'est un processus général, quoi, on peut pas le ramener à notre cas particulier, c'est une politique en fait du quantitatif, du chiffre et de l'image, quoi. Donc, ce qui correspond à une politique de l'opinion. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas une visibilité médiatique nationale, ça n'engage pas, on va dire, une masse de personnes quantifiables par des sociologues ou des experts, ces choses-là ont pas d'intérêt pour ceux qui détiennent le pouvoir, quoi. Donc après, historiquement, c'est vrai qu'au niveau des politiques culturelles, bon, il y a eu plusieurs stratégies. C'est vrai qu'au niveau du pouvoir plutôt ancré à droite, ça a été vraiment l'option du marché. Des artistes sur le marché et d'un espace concurrentiel, et que l'État avait pas à intervenir là-dessus. Et c'est vrai que depuis le début des années 80, avec l'arrivée du Parti Socialiste et d'un développement d'une autre politique, bon, ça a été la construction d'une relation entre le ministère de la Culture et le milieu associatif, création de structures, etc., quoi, et d'un accompagnement. Et peut-être parfois aussi, il faudrait faire le constat de quelque chose peut-être trop contraint aussi. Hein. Mais bon, là, le problème, c'est que bon, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est comme en Irak. Tout d'un coup, il y a un missile qui part. On ne sait pas d'où il vient.
C'est quand même pas la guerre, hein, n'exagérons rien.
Oui, oui, mais c'est, disons, il n'y a pas de. En termes d'image, il y a quelque chose qui arrive.
Peut-être tout à l'heure on a évoqué cette idée du désengagement, qu'il semblait que la volonté c'était de renvoyer aux collectivités territoriales le soin d'être moteur d'une action culturelle, artistique et sociale. Est-ce que vous-même, lorsque vous avez appris cette nouvelle de la diminution des subventions allouées par le ministère, vous avez pris contact avec les chargés de mission de la ville, du département, de la région, et quelle réponse avez-vous obtenue, Manu Vergès?
Nous, on a pris plutôt contact avec les gens du ministère de la Culture aux différents endroits, et savoir de quelle manière on pouvait faire en sorte que l'État, s'il n'avait pas fait de concertation en amont, puisse se sentir responsable d'engager une concertation en aval. Pour l'instant, on a vémonté un rendez-vous pour ce qui est la question du multimédia, des cultures numériques et des arts numériques, au SGAR, avec un chargé de mission de technologie et avec la DRAC, rendez-vous qui avait été annulé il y a 10 jours. Donc on va essayer de pousser, relancer ces logiques de concertation.
Sébastien Cornu.
Alors oui, non, juste pardon, et pour avoir eu quelques chargés de mission sur d'autres collectivités territoriales, leur seule crainte c'est de dire combien l'État ne vous donne plus. Oui. On a l'impression qu'ils sont complètement terrorisés de savoir ce qu'on va leur demander en plus. C'est là où je parlais tout à l'heure d'incompétence, c'est-à-dire qu'on ne sait plus autour de quoi, qui a ces compétences-là, avec qui on peut travailler. C'est très compliqué.
Sébastien Cornu.
Faut... Sur ces relations gouvernement-collectivité, on entre tout de suite dans un contexte politisé. Et on est en amont des municipales. Alors à la fois, nous, ça nous permet quelque part, ce contexte-là, de dire, d'exposer, puisqu'on a beaucoup d'élus qui viennent nous rencontrer, qui nous posent des questions, enfin d'élus ou de candidats plutôt. Beaucoup de candidats qui nous posent des questions et qui s'intéressent à la situation et qui, quelque part, amènent de la médiatisation aussi du contexte, etc. Notre souci actuel, il est très clair, c'est l'absence d'information de l'État, juste des orientations. Et il n'y a pas de concertation. Il y a une concertation qui se met en place, en fait, au niveau national, hein, avec l'ensemble des fédérations de la culture, enfin représentative, hein, et puis des personnes qualifiées, etc. C'est une méthode qu'on connaît, hein, limite un Grenelle. Je crois qu'on est plutôt dans des phases de temporisation. On va attendre un petit peu. On lâche pas les chiffres avant les municipales parce que ça pourrait faire trop mal. On va les lâcher derrière, voire les amplifier. En fait, c'est très long. Et d'avoir, je reviens juste un petit peu sur ces entretiens de Valois, qui je sais pas si on va en parler dans quelques minutes. D'accord. On reviendra après.
Peut-être juste avant de donner la parole à Serge Pizot, un mot à Michel Philibert, suite à l'annonce de la diminution de vos subventions.
Oui,
vous avez rencontré, je crois, les représentants de la ville de Marseille. Peut-être quelques mots sur cette rencontre.
Je les ai rencontrés, pas rencontré les représentants de la ville de Marseille sur le secteur cinéma et audiovisuel. J'ai rencontré Renaud Muselier dans un cadre particulier puisqu'il souhaitait rencontrer, enfin il y a eu une invitation faite à tous les futurs candidats sur les questions d'identité et de genre par ce qu'on dit être les LGBT. Donc Renaud Muselier a assuré
LGBT,
que c'était
lesbienne,
des biais trans. Voilà. Renaud Muselier a assuré que la subvention du Festival Reflet serait reversé, que c'était une connerie, je reprends ces mots, mais je suis pas venue ici pour parler du Festival Reflet. Simplement, en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que concernant le relais éventuel des autres institutions, à savoir Conseil Régional, Conseil Général, ce qui a pu, en tout cas, m'être dit, c'est qu'il y avait une reconduction à l'évidence des budgets précédemment versés. J'espère qu'il en sera de même pour toutes les structures. Je pense pas qu'il y ait de désengagement de ces collectivités-là. Ceci étant, le problème reste posé, qui, et c'est ce qu'on se posait comme question, qui reprendra, si tel est le cas, la part manquante de l'État versée jusqu'à présent à nos structures.
Serge Pizot, pour conclure.
Oui, mais très vite, à la veille des élections municipales et des élections cantonales, il y a aussi un argument, c'est que les coupes sombres dans la culture, sur des périmètres autour de la friche, hein, puisque Radio Grenouille est installée à la friche, la culture, ça doit représenter 400 ou 500 ou 600 emplois dans un périmètre large, qui aujourd'hui prendrait la décision politique de supprimer 600 emplois, ou pas 600 emplois, mais d'intervenir sur 600 emplois, au prétexte d'une rentabilité libérale.
Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale, on se retrouve juste après, et comme l'évoquait tout à l'heure Sébastien Cornu, on parlera un petit peu des entretiens de Valois qui ont lieu en ce moment.
Or, beuveur très illustre et vous goûteux très précieux. Vous avez ouï un commencement de l'histoire horrifique de mon maître et seigneur Pantagruel. Ici, je ferai fin à ce premier livre. La tête me fait un peu mal et sent bien que les registres de mon cerveau sont quelque peu brouillés de cette purée de septembre. Vous aurez le reste de l'histoire à ces foires prochainement venantes. Et là, vous verrez comment Panurge fut marié. Et cocu dès le premier mois de ses noces. Et comment Pantagruel trouva la pierre philosophale. Et la manière de la trouver et d'en user. Comment il navigua par la mer Atlantique. Et défit les cannibales. Comment il combattit contre les diables. Et fit brûler 5 chambres d'enfer et mit à sac la grande chambre noire. Et rompit 4 dents à Lucifer et 1 corne au cul. Et comment il visita les régions de la lune pour savoir si, à la vérité, la lune était entière, mais que les femmes en avaient 3 quartiers en la tête et 1000 autres petites joyeusetés toutes véritables. Ce sont belles besognes.
On écoutait Jean-Luc Terminarias, un cirque horrifique, c'est pratiquement de circonstance. À propos des entretiens de Valois qui ont lieu en ce moment, grande consultation, grand messe de la culture pour redéfinir ou partager les orientations de la politique culturelle nationale, peut-être sur cette question, Édouard, est-ce que vous avez quelques informations?
Non, là je vais laisser les spécialistes en parler, non je suis pas très bien informé.
Sébastien Cornu alors?
Spécialiste. Prenons du titre. Les entretiens de Valois, en fait, c'est vu que quand même les coupes budgétaires elles passent pas si bien que ça, ils sont obligés de gérer la situation. Il y a quand même des pressions de l'ensemble des fédérations et syndicats du spectacle vivant notamment, mais aussi de l'audiovisuel, etc., qui se sont mobilisés, syndicats d'employés aussi, de salariés, et qui ont exigé qu'il y ait une discussion ouverte qui se mette en place. Donc voilà, c'est une grand messe avec une 50aine de représentants de l'ensemble du secteur qui va discuter avec Madame la Ministre. Donc il y a un calendrier qui est mis en place, ils doivent se réunir en commission, 6 commissions, qui doivent se réunir toutes les semaines pour donner des résultats et des préconisations en juin. Le côté, alors il y a 2 choses, hein. Il y a d'une part, qu'est-ce qui constitue les entretiens de Valois? Il se trouve que nous, on a réussi quand même. Quand je dis nous, c'est l'UFISC, c'est la représentation quelque part dans le spectacle vivant pour l'instant de l'ensemble des syndicats et fédérations qui sont du secteur plutôt associatif.
Pardon de vous couper, mais est-ce que ce sont les syndicats qui sont invités à ces entretiens? Est-ce que ce sont des représentants du monde de la culture?
Alors,
qui est invité?
Il y a les syndicats, puisque en France, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est les syndicats qui sont représentatifs des secteurs d'activité. Syndicats, des personnes qualifiées, hein, qui sont intelligents et qui savent bien parler, donc ils sont invités par la ministre, hein, à discrétion de la ministre, et ensuite les représentants des collectivités territoriales, hein, les associations d'élus, de ARF, etc. Parce qu'il s'agit évidemment de discuter de la transmission de la compétence, en fait, quelque part, et qu'il faut que ça se discute avec tout le monde. Au-delà de ça, moi j'aurais aimé vous présenter un peu en détail l'UFISC, mais chacun a envie de présenter sa boutique, c'est normal. Mais au-delà de ça, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même réussi avec l'UFISC à être assiégé à ces entretiens, ce qui n'était pas gagné du tout, donc quand même qu'une partie importante du secteur puisse être représentée. Il y a aussi la Fédération des Arts de la Rue, il y a le CINAVI qui a un siège, il y a le SMA, le Syndicat des Musiques Actuelles. Donc ça commence à faire quelques personnes qui ont un discours commun et entendable par les collectivités et par l'État.
Si l'État se désengage et éventuellement se désengage au profit des collectivités territoriales, ça signifie qu'une relative harmonie sur l'ensemble du territoire national va désormais donner lieu à une disharmonie, à une diversité, mais pas dans le bon sens du mot diversité. Ça signifie que selon les lieux, selon les régions, selon les endroits, eh bien une politique culturelle va être plus ou moins fournie, plus ou moins active, plus ou moins dotée. Peut-être particulièrement dans des quartiers défavorisés et dans des zones à l'extérieur des grandes villes, dans des zones rurales. Peut-être de nouveau Sébastien Cornu sur cette problématique particulière de développer les activités culturelles en milieu rural et, alors, et la difficulté qu'elles vont rencontrer.
Évidemment, si l'État enlève sa mission de régulation, de garantie d'une certaine cohérence au plan national, on aura des territoires qui sont plus riches et qui auront donc une politique plus dynamique, et des territoires qui sont bien plus pauvres et qui seront un petit peu à la traîne, évidemment. Donc il y a cette question-là qui est posée à l'État. Et qu'on ne peut pas asseoir une politique culturelle au niveau national que sur des institutions publiques qui, malgré tout, sont assez onéreuses et même si elles ont un rayonnement important, ne répondent pas à l'ensemble des besoins des populations. Et le cœur de la question, moi j'insiste dessus, c'est que notre mouvement, enfin notre rassemblement, nos réflexions, elles sont pas corporatistes ou sectorielles sur écoutez, il faut absolument que les artistes ils puissent continuer à vivre ou alors que moi mon emploi de associatif il puisse être maintenu. C'est que on puisse maintenir une réponse aux besoins de la population avec des idées derrière où la culture est nécessaire. Et c'est pas parce que on trouve que la culture c'est bien, c'est parce que c'est un droit universel de l'humanité. C'est inscrit dans la convention de l'UNESCO, c'est inscrit dans l'agenda 21, c'est signé par une classe politique incontestable, et on va à l'encontre complètement de ces processus-là, qui sont les processus politiques de développement pour le 21e siècle. On n'est plus à la fin du 19e. Quoi.
Serge Pizot, la culture est un droit universel pour tous les territoires, y compris pour les quartiers, y compris les quartiers défavorisés.
Oui, c'est un droit universel, d'accord, on est d'accord là-dessus. Et dans les quartiers défavorisés, c'est un facteur d'intégration. C'est-à-dire qu'en travaillant sur la mémoire et en travaillant sur l'histoire des générations, on arrive à faire prendre conscience à une population, à des jeunes pour beaucoup, mais aussi à des adultes. Je vais citer un exemple d'un atelier d'écriture qui a été mis en œuvre par un centre social Léo Lagrange et qui s'est traduit par l'apparition d'un livre. Et autour d'une table, pendant qu'on faisait la présentation du livre, une jeune femme d'origine maghrébine qui dit « Quand j'ai vu mon nom au bas de ce livre, je me suis senti exister ». Voilà, je crois que l'exemple résume toutes les théories qu'on pourrait développer. Aujourd'hui, se couper de ce genre d'action, c'est déposséder l'individu d'une histoire, d'une personnalité, d'une reconnaissance.
Tout à l'heure, Sébastien Cornu disait, mais au deuxième degré en rigolant, que chacun, évidemment, cherchait à parler pour sa boutique. Mais en vous prenant au mot, comment est-ce que vous réagissez aux critiques qu'on entend parfois, de ci, de là, critiques qui évoquent un certain corporatisme des professions de la culture, corporatisme parfois dicté par la volonté de conserver les avantages acquis. Sébastien ? Michel Philippe.
Il faut juste c'est vrai que c'est deux, un... trois secondes quand même pour constituer une phrase qui soit écoutable, quoi. Dans tous les secteurs d'activité, il y a du corporatisme, évidemment. À quoi on assiste maintenant, moi je pense depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a quand même tout un champ du secteur de la culture qui s'est développé, qui est, je le rappelle, sur ces petites équipes, ces cultures émergentes, sur il y a un renouveau qui c'est pas un renouveau puisqu'il est pas récent, mais bon. Et ce secteur-là, il a pris en maturité de façon importante. Il a ouvert, non seulement par ses fondamentaux, parce qu'il constitue la place de la culture dans la société, enfin c'est de la rencontre, de l'échange, etc. Mais il a pris en maturité, il a réussi à se structurer un petit peu, et du coup, à porter des concepts sur son développement au sein de la société qui sont entendables par beaucoup plus de monde, et qui rassemblent. Et c'est pour ça qu'on arrive à se rassembler depuis 2001 avec l'ensemble du spectacle vivant, sur une structure qui est identifiée et qui est maintenant reconnue. C'est pour ça qu'on arrive à faire des convergences très importantes avec le secteur de l'audiovisuel, parce qu'on est sur les mêmes principes du travail, de la diversité, de la proximité, etc. etc. On rejoint, il y a des fondamentaux de l'éducation populaire qui sont complètement partagés, une grande partie des acteurs culturels viennent de là, etc. etc. Donc on n'est pas sur, on est de moins en moins sur un corporatisme. Après, il y a les difficultés syndicales des acquis, d'un côté l'institution, d'un côté... Mais il va falloir réussir à faire bouger un petit peu tout ça. Et notre mouvement d'ouverture, je vois pas ce qui peut aller à l'encontre, quoi.
Michel Philibert, comment, et juste après Édouard Monet, comment éviter de faire de la culture une boutique ?
Une boutique ? Écoute, pour ce qui me concerne, je crois qu'elle ne l'a jamais été, en tout cas dans mon esprit. Je rejoins tout à fait ce que dit Sébastien par rapport à l'interrogation première posée, à savoir, est-ce qu'on est dans une attitude corporatiste ? Certainement pas. Je pense en tout cas, bien au contraire, que lorsque on présente par notre travail et nos activités et nos passions, parce que je crois qu'il est aussi de question de ça, des choses qui permettent la réflexion, l'intelligence, on ne considère pas les publics comme des gens qui ne sont pas capables de comprendre et d'apprendre. Et donc ensuite, eux-mêmes, de faire des choses auxquelles nous-mêmes nous n'aurions pas pensé, et c'est ça qui est formidable. Je ne crois pas qu'en tout cas ce soit une affaire de boutiquier, mais bien au contraire une affaire de partage et de générosité dans nos actions.
Édouard.
Oui, concernant, c'est un peu pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, la stratégie qui a été adoptée à un moment donné par le ministère via les DRAC, les chargés de mission, etc., concernant ces annonces officieuses, obscures, au cas par cas, on pouvait penser que ça allait produire de la division, puisque on pouvait penser que, puisque c'était du cas par cas, chacun allait essayer de sauver ses petites miettes par rapport aux autres. Et en fin de compte, on s'aperçoit que ça a produit quand même, pour le moment, quelque chose d'assez solidaire. Donc c'est pas du tout, effectivement, dans le sens d'un corporatisme.
Vincent, sur cette solidarité.
C'est ce qui est en cours en fait. Moi, sur l'histoire du corporatisme, il faut quand même faire le constat que c'est ceux qui pointent ce côté-là, c'est quand même un corporatisme de précarité, quoi. Mmh. C'est vrai que tous les gens qui œuvrent dans ce champ-là, c'est un engagement quotidien, relationnel, sur leur vie aussi, par rapport au temps qu'ils mettent. C'est de l'engagement, quoi. Donc après, c'est vrai que ça pose la question de dans quel champ on œuvre, quel statut ça a. Est-ce que le statut associatif, ça correspond à ce qu'on fait? C'est pas sûr. Faudra peut-être faire le constat du régime associatif, hein. Mais après ça pose la question, c'est vrai que nous au niveau de la compagnie on envisage notre travail comme un lieu qui est aussi un service public finalement, quoi, un lieu ouvert qui essaie de tenir, qui est gratuit et qui propose des activités, qui crée des relations entre l'intérieur et l'extérieur, au niveau d'un quartier en particulier, et dont on va dire la ligne d'approche et la question de l'art, quoi. Ce qui est pas non plus, ce qui est aussi un débat à travailler, quoi. Est-ce qu'on œuvre dans le champ de la culture? De quelle culture on parle? Est-ce une culture élitaire pour tous, ou est-ce qu'il s'agit aussi d'une culture populaire pour tous? Donc ça, c'est des enjeux politiques, sociaux. Il n'y a pas de réflexion en termes d'impensé des politiques culturelles. C'est quand même pas nouveau qu'il n'y a plus de politique culturelle en France depuis maintenant, 15 ans, quoi.
Serge Pizot, le service public et la solidarité, ça vous connaît. Comment est-ce que vous percevez ce mouvement et la nécessité de réaffirmer le soutien d'un bien commun culturel, d'un service public qui soit solidaire entre toutes ses branches, la branche de la culture, mais aussi celle de l'éducation, de la poste, de l'énergie, des transports?
Oui, là on touche au fond. Quand je dis on touche au fond, c'est pas le fond sous-marin, c'est le fond par opposition à la forme. Le débat sur le corporatisme, juste deux mots, c'est quand on n'a rien à dire, on oppose les gens et puis on les met en confrontation et on se dit, voyez ce qui vous arrive, c'est à cause de l'autre, l'enfer c'est toujours les autres. Ça c'est la vérité, et c'est complètement dans ce que j'appelais tout à l'heure cette espèce de dictature de la pensée. Et par rapport à ce que vous dites, effectivement, aujourd'hui, une nation qui se poserait pas la question du devenir, alors la poste, l'énergie, et du devenir de la pensée de ses citoyens, c'est une nation qui va dans le mur. On entend beaucoup dans le débat politique en ce moment, quelle société on va laisser à notre jeunesse? Et moi, j'ai envie de dire, attention, en disant ça, on se démobilise. Et si on se posait la question plutôt de quelle jeunesse on va laisser à notre société, là, on serait vraiment dans l'implicatif. On serait vraiment dans la prise en compte de chacun d'entre nous. Et grâce à ça, on mettrait de vraies politiques en œuvre. Et ça vaut pour la culture et ça vaut pour tout le reste. Ça vaut pour tout le reste. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il faut se mobiliser chacun dans son domaine d'activité pour une action solidaire qui va à l'encontre de la dépossession du citoyen de tout ce qui est de tout ce qu'une nation doit lui offrir. Mais bien évidemment, il faut rester mobilisé autour de tout ça.
Alors, une action solidaire, je vais une fois encore me faire un peu l'avocat du diable, mais aujourd'hui, c'est une journée nationale d'action. On rappelle que c'est aujourd'hui, je crois, la remise des Césars ou quelque chose comme ça.
Exactement.
Et que ça justifie cette action particulièrement ciblée dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel. Et le 29 février, une journée d'action qui, elle, sera plus centrée autour du spectacle vivant. Pourquoi ne pas avoir fait une journée d'action unitaire, Sébastien Cornu?
On n'en est pas là.
Mais on va y venir.
Comment dire, oui. Le 22, on pouvait pas ne rien faire le 22. Enfin, nous. Enfin, moi, je dis nous.
C'est, oui, oui. On pouvait, c'est, hein. C'est vrai et qu'il y avait un appel du collectif. Pardon, vas-y, excuse-moi.
C'est pas à moi d'en parler, c'est vrai. Oui. Non, mais... Le jour des Césars, on pouvait pas ne rien faire. Et en même temps, ces journées de mobilisation du spectacle vivant, sur la semaine d'après, le 29... Elles se sont décidées un petit peu avant, enfin en même temps, etc. La coordination se met en place, mais sur le fond, il n'y a pas de dissension du tout. Et pourquoi faire qu'une journée, quoi? C'est que ici dans la région, il y a eu le 8 de février, en Rhône-Alpes, il y a eu le 30, etc., etc. Notre enjeu, juste pour dire un petit peu le 29, notre enjeu, c'est que de toute façon, c'est une journée solidaire où tous les acteurs sont invités qui sont de la culture ou qui partagent ces points de vue et ces nécessités sont invités à se mobiliser. On est sur une mobilisation en région. Nous avons demandé des explications à l'État par l'intermédiaire des DRAC. On n'a pas eu de réponse. On demande à un représentant de l'État qui n'est pas que culture, c'est-à-dire à monsieur le préfet, de bien vouloir nous recevoir et nous expliquer un petit peu la situation. Et on se doit de lui faire passer le message que la situation est très urgente et qu'on a besoin d'informations pour pouvoir, ne serait-ce que nous, à l'intérieur de nos boutiques, gérer un petit peu l'avenir à 2 mois, 3 mois, 6 mois, oui. Quoi.
Michel
oui,
Philibert.
Oui, je rejoins ce que dit Sébastien. Évidemment, il n'y a pas du tout d'antagonisme. En fait, les actions, elles se sont montées les unes à côté des autres parce qu'il y avait l'urgence. L'appel, par exemple, à cette mobilisation d'aujourd'hui, journée de remise des Césars, qui quand même, dans le monde du cinéma, de l'industrie cinématographique, du monde des techniciens, de l'intermittence, ce qu'a relevé Pascal Ferrand l'an dernier à la cérémonie des Césars. Hein, vous voyez, donc cette action, elle a été quand même très, très suivie et l'intervention de Pascal Ferrand a fait bouger beaucoup de choses. Donc, le secteur, effectivement, de l'action culturelle, cinématographique et audiovisuelle a appelé aujourd'hui à cette manifestation. Il n'empêche, comme le souligne Sébastien, que nous sommes beaucoup et ensemble, tous les secteurs représentés, à mettre en place des initiatives qui ne sont pas concurrentielles, qui sont au contraire, je le pense, et qui sont conjointes et qui permettent, effectivement, comme là aujourd'hui avec les auditeurs de Radio Grenouille, de mieux expliquer ce qui se passe, de mieux expliquer nos inquiétudes, mais aussi ce que nous avons l'intention de faire.
Eh bien, précisément, on arrive bientôt au terme de cette émission et on va détailler un petit peu le programme de ces journées d'action, à la fois celle d'aujourd'hui et puis peut-être celle du 29. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, Michel Philibert?
Alors aujourd'hui, donc à l'appel d'un collectif qui s'est récemment constitué il y a une quinzaine de jours ici en région PACA, Aix-Marseille, nous sommes à peu près 20 structures représentées dans ce collectif. On a voulu se rattacher à effectivement cet appel national du 22 et on appelle tous les public, tous les gens qui viennent dans nos salles, qui viennent dans nos activités, qui travaillent avec nous, dans nos associations, à nous rejoindre à partir de 18h dans un nouveau lieu en préfiguration qui sera, je l'espère, une très belle salle de cinéma à l'avenir et qui permettra une grande diffusion et un échange de toutes les structures à travers un projet épatant. Donc, le rendez-vous des quais, c'est boulevard d'Athènes, c'est à 18h. On vous y attend tous pour venir, d'une part, déguster quelques petits films que nous avons concoctés et assister à une table ronde où nous serons quelques-uns autour de la table pour discuter donc, effectivement, quel avenir, entre autres, pour les salles de cinéma et l'action culturelle, cinématographique et audiovisuelle.
Peut-être deux mots sur les films qu'on va pouvoir y voir.
Alors les films ont été choisis par des associations représentées par ce collectif. Il va y avoir un film brésilien proposé qui s'appelle Vibracol, très très drôle. Un film italien proposé par l'association Fotokino. Le premier était proposé par le Festival Reflet. Donc La Pista de Gianluigi Toffacondo. Et puis C'est quoi l'amour? Alors là voilà, on rejoint l'éducation populaire. C'est quoi l'amour? C'est un film que nous avons choisi, réalisé par les élèves de La Major Cathédrale 2006. Voilà. quelques courts-métrages pour donner le goût de l'image et du son.
Ça, c'est au CRDP, c'est boulevard d'Athènes. Et bien entendu, j'imagine que l'entrée est libre.
Oui, l'entrée est libre.
À partir de 18h.
À partir de 18h, on vous y attend.
Et puis, seconde journée d'action prévue, le 29 février. Peut-être quelques mots sur le programme attendu de cette journée d'action, Sébastien.
Alors, le 29 février, comme je le disais, c'est une journée de mobilisation nationale de, qui est un petit peu à l'initiative de l'UFISC, donc l'Union de ces fédérations du tiers secteur culturel, et qui appelle à des rassemblements devant les préfectures de région, comme j'ai expliqué, après à chacun, dans son espace, dans sa région, de voir la forme que peut prendre cette mobilisation, ce rassemblement. Notre objectif est de bien signifier sur l'ensemble du territoire l'urgence de la situation, bien sûr. Pour idée, à Paris, le rassemblement se fera autour d'un culture-ton, le culture-ton qui annoncera la baisse des financements culturels à l'annonce des suppressions de crédits. Donc c'est un appel qui se fera à partir de 15h. Et je pense qu'on va prendre cet horaire-là aussi sur Marseille. Vous voyez, c'est en train de se construire. Mais on sait qu'on sera là et notre intention est de rencontrer Monsieur le Préfet.
On essaiera en tout cas de relayer cette information, mais d'ici là, peut-être sur Internet, des vecteurs d'information qui permettent au jour le jour de se tenir informé de ces événements. Je crois qu'il y a un site, www.cinema-diversité-culturel.blogspot.com. C'est ça, Michel?
Oui, oui.
Et puis, je crois que l'UFISC aussi met en place une structure de communication.
Oui, un site web.
Alors, il y a un site de l'UFISC, www.ufisc.org. Et puis, pour PACA, nous, on essaye de mettre une petite coordination via le net. C'est www.culturepaca.lautre.net.
Merci à tous pour votre participation à cette émission. Michel Philibert, Sébastien Cornu, Édouard Monet, Serge Pizot, Vincent Bonnet. À la technique, c'était Tony. Et laissons au César ce qui appartient au César et à la création ce qui appartient à tous. Merci.
Merci.
Merci.